Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Nous sommes mercredi et chaque mercredi à 16h, c'est l'heure de retrouver le magazine Campus Lille Info, un magazine qui vous informe sur les événements de cette université de Lille. Et aussi aujourd'hui, on va parler de la structuration de cette université, des différents pôles qu'on peut y trouver avec l'exemple de la faculté des sciences et technologies donc de cette université de Lille. Présent aujourd'hui avec nous, Christophe Hulstecker, qui est enseignant-chercheur en biologie. Bonjour monsieur Hulstecker.
Bonjour à tous et toutes.
Alors, donc, cette faculté de sciences et technologies a été créée très récemment, on peut dire, en tant qu'unité, entité.
Voilà, c'est issu de la fusion de 6 UFR et d'un département, donc adopté par le conseil d'administration de l'Université de Lille en février, avec élection au mois de mai et installation de ses services centraux effectifs au 1er septembre. On peut dire que la création, ça date du 1er septembre.
Donc, dans l'Université de Lille, il existe d'autres facultés. On peut peut-être définir d'ailleurs ce qu'est une faculté au sein de cette université.
Alors, si on regarde le code de l'éducation, en fait, ce sont des unités de formation et de recherche. Donc, on rassemble des disciplines qui interviennent aussi bien en recherche qu'en formation. Et ces UFR peuvent prendre l'appellation de faculté. Donc, sur Lille 1, il y en a une autre qui est la faculté des sciences économiques et sociales. Voilà, sur l'île 1, il y en a d'autres, sur l'île 2, faculté de médecine, pharmacie, etc.
Voilà, donc l'idée générale avec la fusion des trois universités en une entité, c'est d'assembler ou de rassembler des pôles qui auraient des compétences un peu équivalentes ou on va dire des complémentarités évidentes.
Oui, alors c'est une question qui, déjà depuis plusieurs années avant même la fusion, c'était la question de retrouver une concordance entre l'activité de formation et l'activité de recherche. Historiquement, les UFR, c'était le même périmètre. Bon, depuis, l'évolution, le côté multidisciplinaire de plus en plus de laboratoires faisait que des laboratoires étaient sur plusieurs UFR. Donc il y a la question, comment trouver un périmètre où on retrouve formation et recherche? Et qui est quand même une cohérence. Alors la cohérence parmi ces 6 UFR départements qui sont devenus 6 UFR départements qui sont devenus 9 départements, ça passe quand même par des interventions communes, notamment dans les premières années de licence, dans la licence sciences de la vie, de la terre et de l'environnement, et dans la licence saisie des sciences de l'ingénieur et des sciences informatiques. Donc il y a une cohérence là-dedans. Ça se déploie effectivement dans la préparation, il faut bien le dire, de la fusion des trois universités lilloises, l'Université de Lille, avec comme objectif d'avoir qu'une vingtaine à terme de composantes. Donc c'est une des premières restructurations de l'Université de Lille qui s'est faite avant la fusion, puisque tous les interlocuteurs des sciences et technologiques sont uniquement sur le site de Lille 1. Donc voilà pourquoi ça a été un petit peu anticipé. Voilà. Et je veux dire, les différentes disciplines cohabitent et interviennent dans les premières années de licence, hein, puisque sciences de la vie, il y a des enseignements de chimie, à l'inverse,
On l'a bien compris, Christophe Hulstecker, quand vous parliez de périmètre, il y a deux notions, hein, il y a la notion thématique et la notion géographique, sachant que votre faculté est bien sûr resserrée sur un espace qui est limité, qu'on connaît bien, qui est domaine de l'université ici, sciences.
Effectivement, si on regarde le périmètre de cette nouvelle faculté, il est quand même très important, puisque globalement, c'est la moitié des étudiants qui suivent des formations sur le campus Lille 1 et la moitié des personnels de Lille 1, globalement. C'est aussi dire qu'on s'étale, on utilise, s'étaler, c'est peut-être pas le terme, près de 27 bâtiments sur le campus, et il y a 27 laboratoires et structures de recherche qui sont associés à cette faculté. Donc ça reste quelque chose de très important en taille. Ceci dit, on a l'avantage quand même, c'est qu'on partage la même zone sur le même campus de Lille 1. Ça, c'est un peu dans la prévision de d'autres structurations dans l'UDL qui seront peut-être plus compliquées en sciences humaines et sociales, etc. Puisque là, il y a des entités hébergées, bien sûr, sur Lille 3 aussi bien que sur Lille 1 ou des choses comme ça. Donc, on a au moins la concordance de lieux. au moment de la création de cette faculté. Et il n'y a pas toutes les sciences et technologies aussi, je vais préciser, puisque des sciences et technologies sont aussi dispensées en recherche et en formation dans le Polytech Lille et dans l'IUTA sur le campus. Et ça, ça reste séparé pour l'instant, et ça le restera, puisqu'il y a des statuts particuliers liés aux écoles polytechniques et aux IUT.
Alors, il existe d'autres UFR qui n'ont pas pris le nom de faculté. Est-ce que pour vous, le terme faculté apporte aussi des avantages d'un point de vue sémantique, pourquoi pas, hein?
Alors, le terme faculté, c'est un terme ancien avant qu'on soit passé dans le code de question de l'UFR. Donc c'est un peu l'innovation en revenant des termes très très anciens. Une des justifications qui est donnée, c'est que le terme passe mieux à l'international, parce que faculty, ça dit quelque chose chez les anglo-saxons, hein, qu'unité de formation et de recherche, ça parle moins. C'est une des raisons là-dedans. Mais il faut constater qu'au moment où on a changé, enlevé dans le code d'éducation faculté, il y a certaines disciplines qui ont gardé toujours faculté. Depuis le départ, les facultés de médecine, qu'elles soient sur l'île 2 ou qu'elles soient à Bordeaux, s'appellent faculté depuis très longtemps. Donc c'est une appellation. D'un autre côté, ce qui est important, c'est les statuts, en fait. Ça reste une unité de formation et de recherche. Voilà, c'est dans l'ordre du statut. Comme moi, on m'appelle doyen, mais dans les faits, je suis directeur de l'UFR. Je suis élu. Voilà.
Est-ce qu'il existe, par rapport à ce mot faculté, sinon... une appellation contrôlée, une déontologie, voire même une labellisation ?
Non, c'est simplement, ça figure dans les statuts. On dit que le directeur de cette UFR sera dénommé doyen, ou cette UFR sera dénommée faculté sciences et technologies. Là, il y a une certaine liberté dans l'appellation des UFR. Ça, c'est renvoyé au statut des établissements.
Et au-delà de l'université, d'autres lieux de formation peuvent s'appeler faculté sans difficulté, ou il y a quand même un minimum?
Comme ce n'est pas un terme qui est, j'allais dire, défini, qui n'est plus défini dans le code de l'éducation, rien n'empêche un usage faculté extérieur, je vais dire comme ça.
Donc le privé peut s'y mettre, il n'y a aucun souci.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'on a des voisins qui savent très bien utiliser les termes de faculté et qui ne sont pas une université, puisque voilà, un institut professionnel privé, confessionnel privé, bien sûr, c'est pas des choses qui sont protégées, contrairement au terme d'université, qui est protégé par le code d'éducation, le terme d'UFR aussi. Ça fait une distinction.
Alors, si j'ai bien compris, dans l'université de Lille, il y aura des facultés et d'autres pôles qui n'ont pas encore ce nom, mais qui sont des UFR comme vos facultés.
Oui, enfin, j'allais dire qu'il y aura des UFR dont la plus grand nombre s'appelleront facultés, parce que je pense qu'il y aura un effet de dynamique et tout le monde voudra s'appeler faculté une fois que ça va un peu se généraliser. Je pense que ça va comme ça. Et d'ailleurs, il y a des noms qui sont proposés déjà pour changer, même à l'intérieur de l'île 3, des discussions pour changer les noms des UFR, pour prendre une appellation de faculté, pour une certaine homogénéité au sein de l'établissement UDL.
Voilà, donc ça bouillonne en ce moment, j'ai l'impression.
Oui, bon, je pense que le gros bouillonnement, ce n'est pas tellement le changer les noms, c'est les structures, les fusions, les réadapter les circuits, les instances, etc. Je pense que c'est ça le gros chantier, hein, en dehors du nom. Et...
Voilà, avec aussi des élections qui vont avoir lieu à la rentrée.
Effectivement, les élections de l'Université de Lille sont programmées le 16 novembre, donc c'est vrai que c'est un enjeu important. Là, les élections qu'on a eues pour la faculté des sciences et technologies, c'était au mois de mai, hein, je ne sais plus si c'était le 5 ou 6 mai, bon, revoir. Ce sont des enjeux. Alors, pour parler des élections, mais alors peut-être plus de celles de la faculté, parce que celles de l'UDL, bon, c'est, en ce moment, il y a une campagne officielle, etc. Je ne vais pas m'exprimer sur ça, mais les élections qui ont eu lieu sur la faculté, donc au mois de mai, ont montré aussi un changement, puisque dans les UFR, avant qu'elles aient été fusionnées, bien souvent, pour certains collèges électoraux, ils finissaient par avoir que des listes uniques candidates. Donc l'enjeu politique de l'élection était souvent moindre. Je pense que beaucoup ont été étonnés de voir le nombre de listes concurrentes, y compris dans les collèges des enseignants-chercheurs, Chez les personnels techniques administratifs, il y avait des listes différentes, chez les étudiants aussi. Ça a été une première surprise. Et puis aussi des résultats qui n'ont pas sorti une liste ayant la majorité absolue dès le départ. Donc voilà, moi j'étais candidat sur une non éligible, hein, sur une des listes. Donc voilà, la question sur l'UDL, du coup je transpose sur l'UDL, est-ce que, toujours pareil, combien de listes sont au départ, à l'arrivée, qu'est-ce que ça donne là-dedans, hein, et alors sur le conseil pour la faculté, comme c'était une élection purement proportionnelle, finalement, il s'est retrouvé, voilà, c'est un peu différent. Il n'y a pas une élection avec une prime majoritaire, des choses comme ça. Mais comme il y a eu des listes différentes, un programme et finalement pas mal d'élus sur pas mal de listes, ça veut dire qu'il y a quand même eu, finalement, sans avoir énormément, il y a eu un débat public parce que je l'avais proposé, il y avait 3 candidats au moment de l'élection du directeur du FR, mais pas avant l'élection. On peut dire qu'il y a eu quand même une mobilisation et des programmes distincts. Donc par rapport aux anciennes UFR où il y avait beaucoup, à certains endroits, des listes uniques, on peut dire qu'il y a quand même eu un dynamisme, ça a suscité quand même un dynamisme de monter des listes de candidats et d'avoir des programmes. Voilà, je pense que ça, c'est plutôt une bonne surprise. Enfin voilà, donc peut-être l'UDL aussi va faire, je ne sais pas. Voilà. C'est...
On verra. Mais pour l'instant, rien n'est dit. Mmh. Hein. Donc vous, au niveau de votre faculté, hein, appelons la faculté des sciences et technologies, vous en êtes le doyen ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est un doyen d'une faculté ?
Alors, le doyen de la faculté, c'est le directeur de cette composante. Donc, quelle est sa mission ? Ben, sa mission, c'est d'exécuter, finalement, de mettre en œuvre la politique qui est décidée par son conseil, voilà, au quotidien. C'est un peu ça. Voilà, donc il y a des aspects de signature parce que j'ai autorité sur un certain nombre de personnels, les ordres de mission, des choses comme ça, les services, etc. Et puis bon, c'est la mise en œuvre de ça. Mais ça se fait bien en accord avec le conseil de composantes et ça se fait aussi avec l'aide, le soutien aussi des services centraux, la secrétaire générale, des responsables des services centraux qui font tourner aussi une UFR. Hein. C'est-à-dire que le directeur du FR, le doyen, ce n'est pas lui qui, lui seul, fait tourner l'UFR ou la faculté. Mais bon, il participe à l'animation, il met en œuvre la politique. Alors, quand on voit la taille que ça fait, heureusement que les statuts de cette faculté ont prévu des vice-doyens, puisqu'en réalité, il y a 6 vice-doyens qui ont été élus en septembre. Et donc, c'est un travail d'équipe, un peu comme une équipe de direction sur l'Université de Lille, parce que sinon, étant donné la taille, je pense qu'on aurait du mal à mettre en œuvre une politique et proposer des axes au Conseil sur tous les champs qui vont de la vie étudiante à l'hygiène et sécurité, à la formation, à la recherche, etc. Donc, ça, c'est. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas seul, en l'occurrence, pour faire ce travail-là.
Alors, quand vous parlez d'équipe, ça représente. Plus de 1000 personnes, c'est ça ?
Alors, sur les personnels, donc sur l'équipe, bon, il y a les vice-doyens, les secrétaires généraux, les responsables des services centraux. Mais si on regarde par rapport au corps électoral au moment de l'élection, c'est 1200 personnes environ ont été inscrites sur au moment de l'élection, hein, parmi les personnels, que ce soit administratifs, enseignants-chercheurs ou chercheurs qui sont demandés l'inscription là-dessus. Donc, c'est quasiment la moitié des personnels de Lille 1 et à peu près la moitié des étudiants. Mais je pense que ça, c'est à peu près 8000 étudiants qui étaient inscrits l'année dernière.
Il y a des personnels techniques également ?
Ah oui, tout à fait. Oui, hein. Oui.
Donc voilà, c'est...
Il y a environ 600 personnels techniques administratifs, y compris, bien sûr, quand on parle de ces personnels, c'est aussi bien les titulaires que les agents contractuels.
Ils ont le droit de vote aussi, les contractuels.
Oui. Hein, oui. Donc, il y a des conditions de vote qui sont liées à l'ancienneté des contrats, comme pour l'UDL, c'est 6 mois qui permettent de donner le vote. Et on sait que, malheureusement, j'allais dire, que chez les personnels dits BIATS, la part d'agents contractuels est quand même importante. Voilà. Mais il y a aussi il peut avoir aussi des électeurs dans les collèges enseignants-chercheurs qui sont quelque part des contractuels. Il y a quand même les doctorants qui sont un contrat, qui font d'enseignement. Des enseignants vacataires au-dessus d'un certain seuil d'heures dispensées peuvent être électeurs, etc. Voilà.
Alors, comment ça fonctionne après au niveau des conseils du conseil de l'université, par exemple ?
Au conseil de l'université ou le conseil de la faculté ?
De l'université. Est-ce que vous êtes de droit représentant ou...
Alors, dans le conseil de l'université de Lille, le conseil d'administration, j'y siège encore parce qu'avant d'être élu doyen, j'étais élu sur une liste alternative FSU-CGT. Donc, j'y siège encore pour les quelques conseils qui restent, plus beaucoup, puisque au 1er janvier 2018, de toute façon, l'élection du 16 novembre va installer des nouveaux conseils. Au 1er janvier 2018, ce ne sont que des questions Université de Lille. Et dans ce cas-là, c'est le nouveau CAUDL qui va siéger. Donc, j'y siège encore en titre que de... de membres élus. Voilà. Alors maintenant, à ce conseil, étaient invités, selon les ordres du jour, étaient invités les directeurs de composantes. Voilà. Mais moi, là, j'y siège en tant qu'élu. Voilà. Je n'ai pas abandonné ce mandat, en sachant le peu de délai qui reste pour terminer ce mandat.
Voilà. Donc, on l'a bien compris, 2018 ne sera pas une année banale.
Oui, alors pour nous, déjà, fin 2017 n'est déjà pas banal, parce qu'en fait, on met en place. Donc, c'est vrai qu'il y avait les statuts, il y a les services centraux, on a heureusement un bâtiment pour installer les services centraux. Mais on est, par exemple, on est en train de travailler, on va y arriver au règlement intérieur de la faculté des sciences et technologies. Donc, il faut à la fois, le défi, la complexité, c'est qu'il faut à la fois servir les services immédiatement, RH, finance, etc., pour l'ensemble des personnels et des étudiants, les services pédagogiques. Et en même temps, on bâtit le règlement intérieur qui dit comment... va fonctionner au quotidien, les instances, les commissions, etc. Bon, alors c'est, en même temps, c'est intéressant, puisqu'on construit, on participe de la construction, mais ça fait une tâche importante, avec un défi qui a été souhaité dès le départ, enfin une exigence, je vais dire, dès le départ dans la construction, c'est de maintenir des services de proximité, de maintenir un lien entre formation et recherche, même au niveau des départements. Ce qui suppose attirer beaucoup d'attention pour faire attention à inviter bien là, les directeurs de département et connaissances centraux, mais aussi voir des commissions locales et toujours passer aussi par les conseils de département, etc., pour ne pas rompre cela. Le danger dans une grosse fusion, c'est que finalement, il n'y a plus que l'hyperstrate au sommet où forcément c'est la strate qui est délibérative, le conseil de faculté, mais de se couper entre guillemets de la base et du terrain. Donc le souhait au départ de la création, c'est d'éviter cela. Donc ça suppose pas mal le travail de coordination et de mettre en place des structures de coordination, demander les avis, des conseils aussi des départements, des structures de recherche. Mais je pense que c'est aussi l'enjeu qui va être pour l'Université de Lille. En fait, en miniature, sur un système simple, parce qu'on est sur le même campus, on voit un petit peu ce qui va se mettre en place. Au niveau de l'Université de Lille, quoi qu'il arrive, au 1er janvier 2018.
Alors déjà, en termes de visibilité, la faculté de sciences et technologies, on voit maintenant un grand panneau. Quand on vient du métro, enfin, quand on passe, on sort de Triolo, voilà, on arrive à Cité Scientifique. Et sur la droite, on voit un bâtiment avec un grand panneau, faculté de sciences et technologies. Donc, on peut imaginer que ce bâtiment représente le cœur décisionnel, c'est ça ?
Alors, le corps décisionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là que sont localisés les services centraux. Donc, c'est toute la partie qui est mutualisée pour la faculté. Mais précisons que chaque département a son secrétariat, ses compétences propres, tout ce qui est gestion des formations, la pédagogie, etc., des projets de formation, ça démarre des départements. Enfin, c'est pas le seul lieu identifié là-dedans. Mais effectivement, maintenant, il est identifié en signal éthique, et c'est bien, tant mieux, parce que ça serait quand même le point d'accès de l'ensemble des personnels et aussi des étudiants, puisqu'il y a quand même un service de vie étudiante et scolarité. Il y a un service aussi de relations internationales qui gère maintenant l'ensemble des étudiants qui sont en mobilité Erasmus. Donc, il y a aussi de l'accueil étudiant. Et là aussi, c'est pour rejoindre un peu la question posée, c'est que est conçu dans les missions, ce qu'on appelle les compétences en termes savants de cette faculté, ce qui est actuellement à l'ordre du jour de Lille 1. Mais dans la fusion, on ne sait pas encore maintenant quelles compétences seront déléguées à l'ensemble des facultés des compétences de l'Université de Lille. Donc ça peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'on met en place un système dans le, actuellement, pour que ça tourne dans l'île 1, mais on sera peut-être obligé d'incrémenter le système, parce que si par exemple la scolarité, les inscriptions, je ne sais pas, se font au niveau des facultés, ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait un service d'inscription au niveau de la faculté des sciences et technologies. Quand je dis ça, ce n'est pas forcément impossible, puisque au niveau de l'Université de Lille 2, il y a une forte délégation de compétences sur les facultés, aussi liées au fait de la dispersion qu'ils ont sur les sites. Et donc les facultés à Lille 2 font énormément de choses, y compris de la scolarité.
Est-ce qu'on peut imaginer que le rôle du bâtiment A3 peut évoluer par rapport à ça?
Alors, le bâtiment A3, c'est-à-dire que les bâtiments centraux des trois universités vont abriter les services centraux de l'Université de Lille. Mais effectivement, selon le choix des délégations de certaines missions, et des missions qui ne sont pas déléguées, qui sont déjà décidées, c'est logique, hein, la valorisation, c'est centralisé, etc. Ça, c'est déjà dans la boîte, j'allais dire. Voilà. Mais il y a encore des choses qui seront définies dans le règlement intérieur de l'Université de Lille. Et donc, selon les décisions qui seront prises de dire ça, ça reste central, où ça va dans les facultés, effectivement, ça peut faire bouger des choses, mais pas les choses essentielles. Enfin, je veux dire, ça joue sur quelques missions de l'Université de Lille, peut-être.
Pour les auditeurs qui ne comprennent pas forcément tout ce qu'on dit là, c'est, le bâtiment A3, c'est le bâtiment traditionnellement réservé à l'administration.
Voilà, c'est là où sont les services centraux de l'Université de Lille 1 actuellement, et le lieu où se situe aussi la présidence et les vice-présidents. Donc c'est un peu l'équivalent de notre bâtiment central de la FST, où on a à la fois l'hébergement des doyens, vice-doyens et des services centraux de la faculté.
Voilà. Donc on a bien compris que vous avez plein de travail en ce moment, en plus de votre mission d'enseignement, de recherche, etc. Vous arrivez à tout mener de front, ça va ?
Mener tout de front, non. Clairement, c'est compliqué. Donc, je pense que pour l'instant, bien sûr, j'investis énormément de temps, mais je ne suis pas le seul. Les vice-doyens aussi investissent beaucoup sur le démarrage et la construction de. Enfin, elle était construite, mais voilà, la montée en puissance de cette faculté. Bon, mais c'est un choix personnel assumé. Une fois qu'on est candidat, on assume ce choix-là. Voilà, c'est une période de carrière, on passe par là. J'ai eu d'autres périodes où j'ai investi dans d'autres activités, notamment militantes. Bon, bah c'est voilà, donc effectivement, il faut pas faire croire qu'on puisse assumer le reste, mais je suis encore dans un laboratoire, encore en interaction dans le laboratoire, et puis je vais dispenser des enseignements qui sont pour moi tout en semestre pair, donc ça va, ça tombe bien, c'est que ce semestre-ci, j'ai du temps quand même dégagé là-dedans.
Est-ce qu'il y a d'autres universités en France qui ont eu cette problématique à résoudre aussi de fusion? Est-ce que ça peut être aussi un champ d'expérimentation qui donne quelques clés pour que ça se passe bien aussi à Lille?
Ah, sur les modèles souhaités. Oui, il y a eu pas mal d'universités qui ont fusionné. Ça a commencé par Strasbourg, puis Marseille. Il y en a, voilà, très dernièrement, il y a un an, Grenoble. Alors, les modèles ont été étudiés par les présidences de Lille 1, Lille 2, Lille 3 depuis pas mal d'années pour voir les différentes solutions, parce que certaines fusions, à l'Université de Lorraine par exemple, on a créé des sénats intermédiaires, etc. D'autres visions sont restées vraiment strictement, c'est un peu le projet de l'Université de Lille, d'avoir des conseils centraux, pas d'autres interfaces, et en dessous il y a les facultés et les laboratoires. Donc il y a des modèles différents. Ce qui a été choisi pour l'Université de Lille, c'est pas de mettre une strate administrative intermédiaire, et qu'une fois qu'on sort des conseils centraux et présidence, on tombe directement sur des facultés ou des UFR et des laboratoires. Donc il y a des modèles différents. Mais en tout cas, partout où il y a eu des fusions d'établissements, plus ou moins compliquées en fonction de l'étendue géographique, il y a eu de toute façon enclenché, soit avant, soit après, des fusions de composantes et d'UFR. Voilà, ça, c'est à un moment donné, on passe à cette étape-là aussi. Donc là, pour la faculté sur ces technologies, c'est un peu anticipé. Pourquoi les fusions? La question, c'est fusion pour mieux rendre les missions de service public. On le souhaite, mais on sait très bien que les premières fusions d'établissements, c'était un petit peu vu comme étant une solution pour entrer dans les préconisations pour déposer des candidatures IDEX. Ça, on le sait très bien, avec un genre de chantage qui se faisait quand même entre le ministère de l'enseignement supérieur ou la secrétaire d'État et les établissements. L'air de dire si vous voulez des subventions, il faut monter une visibilité internationale, etc. Ça faisait partie des critères, quand on lit les critères d'IDEX, hein, de politique de site, renforcement de gouvernance. On sait bien qu'il y a ça là-dedans. Nous, nos préoccupations, une fois que c'est décidé, comme la fusion de la FST, c'est de faire en sorte que, quand même, les missions de service public puissent être assurées dans de bonnes conditions et pas au détriment des conditions de travail des personnels et des étudiants. Ça, c'est un peu ça le problème. Et parce que des fusions à coût constant, c'est pas vrai. Une fusion, même au démarrage, voire plus loin, il y a des coûts de coordination. On sait bien que dans les entreprises, quand une entreprise rachète une autre entreprise ou trois entreprises, à un moment donné, il y a un plan de licenciement. Il faut bien récupérer. On a récupéré le marché de l'autre. Bon, là, c'est un peu différent puisqu'il y a une mission de service public. On ne récupère pas le marché des étudiants, tout ça. Mais il y a quand même la question du coût. Parce qu'on récupère ça et on sait bien que les établissements ont un problème sur saturer leur plafond d'emploi, c'est-à-dire réussir à payer le nombre de fonctionnaires qu'ils pourraient être en mesure de recruter. Ça, c'est une réflexion, mais ça, c'est général. Je pense national, c'est une préoccupation importante. L'autre préoccupation qu'on a, c'est aussi maintenir, donc la faculté est pluridisciplinaire, c'est maintenir la diversité des disciplines et des sous-disciplines. Parce qu'avec les logiques d'appel à projet d'excellence, ça a tendance quand même à renforcer une excellence ou une qualité dans certains périmètres sans mettre en lumière les besoins sur les autres périmètres. Ça aussi, c'est une question, parce que derrière, c'est la diversité d'activités de recherche, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'adossement des formations à la recherche, c'est-à-dire éviter qu'il y ait un partage entre une fonction de formation et une fonction de recherche qui serait l'activité de recherche dispensée que dans quelques domaines très très pointus, spécialisation. Alors une façon, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, l'avenir dira, mais de construire une faculté de sciences et technologies qui rassemble un peu plus, peut-être est-ce que ça servira un peu à protéger quand même la diversité des disciplines de recherche et de formation, alors qu'une partie un peu éparpillée pourrait, au gré des coupes budgétaires, voir disparaître une partie qui est quand même une richesse pour le service public. Ça, c'est une préoccupation, en sachant qu'on a une préoccupation un peu de métropole. Hein. Si on pensait aux collègues de l'Université du Littoral, ou les collègues d'Artois, ils sont encore plus, sans avoir à fusionner, ils sont encore plus inquiets. C'est déjà encore plus difficile pour eux de maintenir cette diversité de formation et de recherche.
Alors, au niveau des personnels, il y avait certainement des interrogations. Peut-être qu'aujourd'hui, on répond à certaines problématiques qu'ils auraient à l'esprit. Au niveau des inquiétudes, est-ce que vous ressentez des gens un peu inquiets de savoir ce que va devenir leur université, leur place, est-ce qu'elle va évoluer, changer ?
Alors, au niveau de la faculté, ouais. au niveau de la faculté, je pense qu'il y a des périmètres où il n'y a pas eu de changement. Dans les structures de recherche, les changements ne sont pas gigantesques. Il y a des différences de procédure qui fait que le directeur du FR qui doit signer les ordres de mission, maintenant, c'est celui de la FST, c'est un peu plus loin que le bâtiment précédent. Il y a des choses comme ça. Il y a eu des différences dans les départements, puisque finalement, ils ne gardent plus que la compétence de formation. Donc, ça veut dire, effectivement, on a retiré des personnels dans les anciennes UFR qu'on a mis dans les services centraux. Donc, il y a une question d'adaptation. Ceci dit, ça se fait quand même avec un accompagnement de formation des personnels qui sont là-dedans. Donc, il y a à la fois des personnels qui se sont déplacés et des personnels qui ne sont pas déplacés, qui ont gardé leur champ d'activité. Mais j'allais dire, ça va être pareil dans l'Université de Lille, puisque il y a des personnes qui ne changeront pas, il y a des personnes qui ont changé parce que, ne serait-ce que dans les services centraux, les services centraux, finances, etc., maintenant c'est sur le campus de Lille 3. La recherche, la valorisation, ça sera sur le campus de Lille 1, donc il y a du déplacement là-dedans. Donc c'est assez divers. Alors après, quelle est leur perception? Il faudrait leur demander, mais c'est un peu difficile parce que débuter au 1er septembre, je ne suis pas sûr qu'on peut faire vraiment un bilan maintenant là-dedans, peut-être au bout d'un an de formation. Ceci dit, avoir un bilan, on peut le faire lorsqu'on fait les entretiens professionnels avec les agents. Avec les enseignants-chercheurs, il n'y a pas d'entretien professionnel, c'est plus compliqué. Je crois que oui, il y a des inquiétudes des personnels, d'abord administratifs et techniques, parce que c'est eux qui, dans les services, qui subissent tout de suite les mobilités. Et il y a des questionnements quand même chez les enseignants-chercheurs et les chercheurs en disant oui, mais maintenant c'est plus loin, est-ce que j'aurai le même service que j'avais quand l'UFR était l'UFR de chimie et maintenant je suis un département de chimie à l'intérieur. Voilà, des inquiétudes légitimes au départ, des questions légitimes. Donc. Mais on a le souci de rendre le service équivalent. C'est-à-dire que la fusion n'a d'intérêt que si on ne perd pas en qualité de mission et espérer monter vers le haut les capacités. Alors il y a quand même un effet, c'est que si on fait des services centraux, on peut, les UFR petites avaient des capacités différentes. Donc certaines pouvaient investir dans les relations internationales, mais ce n'était pas partout. Donc on passe sur un système de service de relations internationales qui pourrait, s'il y a les capacités de nombre de personnel, permettre d'offrir ce service à l'ensemble des départements. C'est là qu'il peut avoir un intérêt à condition qu'il y ait du soutien, l'accompagnement en nombre de personnel. C'est-à-dire du coup, au niveau de la faculté, finalement, ça pourrait être un peu plus homogène dans les services rendus à l'ensemble des étudiants, quel que soit le département où ils sont, et au personnel, quels que soient les départements ou les laboratoires qui sont là. Mais ça suppose effectivement des accompagnements financiers, personnels, etc. Dans une situation dans les universités françaises qui n'est quand même pas mirifique, on va dire.
Alors, un dernier point, Christophe Hulsecker, le fait de vous appeler donc faculté sciences et technologies par rapport à des partenariats, est-ce que ça peut faire évoluer les choses, rendre peut-être plus concrètes enfin, les possibilités ou en termes d'évocation, appeler faculté, est-ce que ça peut aider?
Alors, je ne sais pas si c'est le nom qui va changer les choses, mais effectivement, on a prévu des actions un peu événementielles, notamment sur l'aspect recherche. Alors, sur l'aspect formation, peut-être, parce que ça permettra de montrer des passerelles, mais qui existaient déjà par ailleurs, mais sur l'aspect recherche, de montrer justement la pluridisciplinarité et peut-être de monter, je le souhaite, des projets entre les 27 unités de recherche, structures de recherche qui sont dans le périmètre. Enfin, je pense qu'il y a peut-être encore moyen de trouver de la synergie, même sur le campus Lille 1 à ce niveau-là. Ce qu'on souhaite, donc on là-dedans, en sachant que bien sûr les réseaux actuels entre laboratoires, entre départements existent encore hein, pour le là-dedans. Donc on commence à communiquer là-dessus. Bon après on peut aussi perdre des choses. Ça dépend un peu comment vont s'appeler les autres facultés de l'Université de Lille. Si effectivement il y a une faculté qui se crée par exemple qui s'appelle santé biologie, ça pourrait être peut-être un peu troublant de penser que toute la biologie dans cette faculté nouvelle qui s'appellerait santé biologie dans l'UDL. Vous voyez un peu ce que je veux dire, puisque dans sciences et technologies, il y a de la biologie. Donc ça dépend un peu, c'est ça le problème, c'est que les noms et les périmètres dépendent un petit peu de ce qui est à l'extérieur, voire à l'intérieur de l'UDL et à l'extérieur plus loin. Mais on a le souci, en tout cas, de communiquer et de, voilà, de soutenir cette pluridisciplinarité. Voilà. Mais bon, les principaux acteurs, c'est les personnels, les collègues qui sont dans leur service, dans leur laboratoire, etc., les secrétaires pédagogiques, enfin c'est ça qui fait vivre l'université, en dehors d'un nom de faculté. Voilà.
Alors peut-être, on n'a pas beaucoup parlé des étudiants, hein. Il y a 8000 étudiants dans votre faculté. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants Erasmus? Ça va être la fête des Erasmus prochainement, alors parlons-en.
Alors là, vous me posez une colle, parce que je ne saurais pas vous donner un chiffre exact. Donc, bon, il y a des programmes Erasmus, effectivement, ouais. Qui sont développés au niveau de la faculté. Moi, je ne vais pas dire de bêtises sur ce chiffre. Je pense qu'il y a une certaine stabilité dans ces échanges. Il y a effectivement une semaine qui est prévue justement pour faire de la communication à destination des étudiants. Pour expliquer un peu le processus, je pense que c'est assez recherché quand même par les étudiants de pouvoir faire une mobilité. Qui plus est, là, avec une bourse quand même, et puis une convention qui permet quand même de recueillir la mobilité. Donc il y a la mobilité sortante, parce qu'on a des étudiants qui vont aller faire un projet Erasmus à l'extérieur, et la mobilité entrante, parce que dans les projets Erasmus, normalement, il faut que ça soit un petit peu équilibré là-dedans. Donc je pense que là, je n'ai pas d'indication pour laquelle il y aurait un danger là-dessus. À un moment donné, il y avait, mais ça remonte à quelques années, un peu des craintes que le programme Erasmus ne serait pas continué chez ces programmes européens. Bon, là, c'est réaffirmé. Ce que le collègue, le vice-doyen, donc chargé des relations internationales, Jean-François Baudard, souhaite aussi dans cette semaine, c'est aussi parler des échanges internationaux pour les enseignants et enseignants-chercheurs. Voilà, de plus développer cela, parce que là, il y a des marges de progression et des possibilités qu'on peut faire dans la faculté des sciences et technologies pour aider ça. Ça, c'est aussi important, je pense, de pouvoir aussi permettre ces échanges en recherche, en formation entre des universités. Il y a de plus en plus d'universités qui lient des conventions et avec une dimension qui est à la fois formation et recherche.
Christophe Wistecker, merci d'être venu nous parler donc de cette faculté des sciences et technologies à qui nous souhaitons bon vent.
Merci.